Cause à effet, le magazine de l'environnement.
La PAC est-elle vraiment indispensable ? Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs français dépendent de ces aides. 77% d'entre eux en touchent, soit 340 000 exploitations en France. Ces subventions représentent en moyenne 29 000 euros par an et par exploitation. Elles concernent essentiellement les céréaliers et les éleveurs de bovins.
Il n'y aurait pas de revenus si on n'aurait pas la PAC.
Les primes, c'est votre revenu ?
Ah ouais, ça fait une grande partie, la moitié sûre du revenu.
Si on n'a pas la politique commune, au niveau des élevages, on n'existe plus.
La PAC, l'Europe et les agriculteurs, quel équilibre pour un avenir meilleur ? Alors que la PAC doit être renégociée cette année, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, a saisi la Commission nationale du débat public, la CNDP, une autorité administrative indépendante, afin d'organiser un débat public national sur la politique agricole française et sur la manière dont la France utilisera les subventions issues de la PAC. À cette occasion, et alors que le Salon de l'Agriculture vient d'ouvrir ses portes, faisons un état des lieux de l'agriculture française et posons la question de son avenir. Quelle perspective d'adaptation ? À qui doit-on attribuer en priorité les subventions européennes ? Dans un contexte où le mal-être et les difficultés du métier sont au cœur des débats et où les enjeux environnementaux amènent aussi à envisager le monde agricole autrement, quelles solutions et quel accompagnement, technique, agronomique, scientifique, pourraient voir le jour pour aider l'agriculture de demain ? Avec nous, Ilaria Casillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de la CNDP, présidente du débat public sur l'agriculture intitulé Impactons. À vos côtés aujourd'hui, Rodolphe Marconi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de films et notamment du documentaire Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes, un film qui sort au cinéma mercredi prochain. Et dans un instant, on imagine, Aurélie Trouvé nous rejoindra. Elle est maître de conférence en économie à AgroParisTech. Et en seconde partie d'émission, dans l'œil du monde planète, c'est la journaliste Martine Vallot qui nous livrera son choix info de la semaine, à savoir l'enquête qu'elle a menée à Lamballe, où un méthaniseur suscite des interrogations. Enfin, l'Escale Verte nous emmènera sur les terres de l'association Un Toit pour les Abeilles, qui fête ses 10 ans. Avec nous, Zakia Abarou, porte-parole de cette initiative. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales, avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Arnoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé l'émission par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Audrey Guélil.
Yann, oh, on se pousse.
Non, en ce moment, je ne vends pas mon lait parce que j'ai pas assez de production. Et la laiterie, il demande minimum 300 litres de lait pour pouvoir se déplacer chez les agriculteurs. La laiterie me l'achète 30 centimes le litre. Et en magasin, il est vendu 1,50€ le litre. C'est un cercle vicieux. Si tu as l'argent pour lui mettre à manger, elle va te produire du lait. Pour acheter de l'aliment, en fait, il faut de l'argent, il faut que je vende mon lait, il faut que je produise plus. Et les fournisseurs, eh ben, ils attendent pas, quoi. J'ai pas de loyer à payer parce que je suis chez mon père. Mais si je pouvais pas être chez mon père, je sais pas comment je ferais, quoi. C'est mon père, en fait, qui fait des courses, qui achète à manger et tout ça. Sinon, je pourrais pas vivre, quoi. Depuis que je suis installé, je me suis pas versé de salaire. Et j'arrive pas à m'en verser un, quoi. D'abord, je ne demandais pas grand-chose. Au moins, me verser 500 euros tous les mois, quoi. Je suis tout seul, là, bosser comme un con, en fait. Hein. C'est ça, hein.
Extrait de votre film, Rodolphe Marconi. Je répète le titre. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Un film qui sort au cinéma mercredi prochain. Ce film, Rodolphe, c'est une rencontre avant tout.
Ouais, c'est une rencontre sur une plage. J'y vais tous les jours sur la même plage le matin. Je nage 30 minutes et puis pendant 3-4 jours, je vois un garçon qui a les pieds dans l'eau, qui se baigne pas, qui regarde la mer. Et le quatrième jour, je lui ai dit, mais tu devrais y aller, elle est pas froide. Et il me dit, mais je sais pas nager. Et donc je me sens un peu bizarre, je lui dis mais t'es en vacances, voilà. Et il me dit oui je suis en vacances pour la première fois de ma vie. Et c'est mon meilleur ami, donc on verra dans le film d'ailleurs, qui m'a emmené, qui a loué une toile de tente et qui a fait les courses pour la semaine et je suis monté dans la voiture, voilà. Et là, quand il m'a dit qu'il était agriculteur laitier, qu'il m'a parlé de son quotidien, moi, ce qui m'a touché, enfin, la raison pour laquelle j'ai voulu faire le film, hormis le fait d'être envahi d'un sentiment vraiment d'injustice, c'est qu'il me raconte son quotidien sans amertume, sans se plaindre, sans colère. C'était la faute de personne, c'était la vie, sa vie qui était comme ça. Et moi, par contre, alors c'était tout le contraire, j'étais là, j'en voulais à la terre entière. Quoi. Très bizarre ce que ça a déclenché, ça m'a flingué mon été.
Parce que du coup, vous, vous découvrez cette situation. En même temps, Rodolphe Marconi, vous aviez déjà entendu parler peut-être de situations inextricables, nombreuses en France aujourd'hui dans ce monde agricole. On parle aussi des suicides. Hein. On estime à maintenant même un suicide par jour. Avant, on disait un tous les deux jours.
Ah oui, non, mais en plus, je passe la moitié de mon année en Charente-Maritime. J'ai deux amis agriculteurs, un ami ostréiculteur. Mais c'est dur, mais ils s'en sortent, ça va. Bon, il y a autre chose. Je crois que Cyril, ce qui m'a... c'est le contexte. C'est-à-dire que je pense, quand vous rentrez le soir chez vous et que vous avez peut-être une femme ou un mari ou quelqu'un qui vous fait un bisou ou un câlin ou j'en sais rien, ou qui mange avec vous, avec qui vous pouvez parler, pourquoi pas faire l'amour, quoi. Là, Cyril, il se lève le matin, il voit ses vaches, il se couche le matin après avoir vu ses vaches, après avoir fait son beurre. Et puis j'ai fait un calcul, il y a pas longtemps, j'ai fait 18 par 7, c'est-à-dire 18 heures de travail par jour sur une semaine. Ben, on tombe à 126, quoi. Voilà.
Et donc, vous décidez de reprendre contact avec lui parce que ça vous trotte dans la tête que finalement, vous qui n'avez jamais investi ce terrain de l'agriculture hein, dans
oui,
vos
oui,
films,
oui. Alors, je suis très,
à l'opposé, même hein, Karl Lagerfeld, c'était vraiment le monde inverse.
Et j'assume complètement parce que moi, ce qui m'emmène vers la caméra, c'est quand ça cogne à l'intérieur. Ça fait 10 ans que j'ai pas sorti de film parce que je suis en train de préparer un gros film ambitieux que j'arrive pas à faire depuis 10 ans et que je ne veux pas lâcher. On m'a proposé d'autres films entre-temps que j'ai refusé parce que je préfère dormir sous un pont que de faire quelque chose qui cogne pas fort. Karl, je l'ai rencontré parce que je voulais faire un film sur lui. Cyril, c'est parce que je l'ai rencontré que c'était pas du tout prévu. J'ai jamais voulu faire un film sur l'agriculture et je suis très honnête avec ça. Je ne peux pas laisser quelqu'un comme ça en Auvergne après l'avoir rencontré faisant le métier que je fais. Mon ambition, elle est très simple. Je veux juste partager. C'est un constat sur une réalité qui est la sienne et je veux partager ça avec les gens, le public, le plus possible.
Montrer cette réalité qui existe aujourd'hui.
Ouais. Et encore une fois, je ne veux pas, je sais que ça pourrait blesser certains agriculteurs. Je ne dis pas, le film, il s'appelle pas Les agriculteurs en France. C'est Cyril, mais j'étais au plus près de lui. C'est la caméra, c'est vraiment son regard, quoi.
En sachant que vous étiez, il faut le préciser, hein, tout seul, une caméra, et que vous n'avez pas embarqué une équipe avec vous. C'est vraiment, vous étiez presque le doublon ou le personnage bis à côté de lui.
Ah oui, mais je suis devenu son ombre. En fait, tout de suite, j'ai trouvé donc un producteur assez dingue pour m'envoyer là-bas faire un chèque et me dire fais ce que tu veux, en gros, hein, sur ma gueule, parce que j'avais rien écrit, on savait absolument pas, je savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais trouver. C'est quand même étrange de voir quelqu'un une fois dans sa vie, pendant quoi, une après-midi, même pas, sur une plage, et 6 mois après, le filmer en slip dans sa chambre, quoi, parce que je le filme du matin au soir. Et du coup, pourquoi tout seul? Moi, j'y crois pas au documentaire. À partir du moment où vous êtes deux, je n'y crois pas. On ne peut pas rentrer dans la vie de quelqu'un. On ne peut pas être dans l'intime, dans le sensible. Si vous avez un perchman, un chef-op, etc. Puis il y a un autre truc aussi, j'espère que je parle pas trop, qui est important pour moi, c'est que j'avais le rapport avec lui comme un photographe. C'est-à-dire qu'il y avait moi, l'appareil et lui. Et tout passait par là. D'habitude, les documentaires, vous avez le réalisateur et puis le caméraman filme. Et donc, entre vous et lui, il y a tout un tas de
d'interférences.
Ouais.
Et là, non, c'était le fil direct dont lui avait besoin aussi. On va le découvrir dans l'émission, en tout cas, parce que vous allez nous raconter et réagir aussi à nos côtés à ce que vous avez ressenti, vécu, voilà, ce qui vous a porté et ce que vous avez pu aussi en déduire de ce monde agricole. Je me tourne vers vous, Aurélie Trouvé. Bonjour, vous nous avez rejoint. Merci à vous. Concrètement, ces situations comme celle de Cyril, aujourd'hui, on en retrouve beaucoup. On parle de ce mal-être. On parle de cette souffrance du monde agricole. Mais ce monde agricole, on peut peut-être essayer d'en faire un état des lieux, c'est-à-dire de quoi parle-t-on? Il y a ceux qui s'en sortent bien et puis toute une autre frange qui a du mal.
Oui, je crois que ça, il faut le pointer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inégalités de revenus en fait dans le monde agricole. Il y a une grande pauvreté d'un certain nombre d'agriculteurs, effectivement, et de l'isolement, vous l'avez bien pointé, je pense qu'il y a aussi l'isolement. Il y a certains espaces ruraux qui ont de moins en moins de services publics, de proximité, de moins en moins de commerces de proximité, il y a aussi ça, hein. Il y a l'exode rural et le fait que certaines zones deviennent des déserts, notamment de services publics ou de commerces, hein, et qui explique aussi de plus en plus cet isolement. Il y a, à mon avis, deux phénomènes. Il y a un des revenus de plus en plus variables dans certaines productions, c'est le cas du lait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une dérégulation des marchés progressive, assez brutale pour le lait, en fait, dans les années 90 et surtout le début des années 2000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus des prix minimum garantis, on a des revenus et des prix extrêmement variables. Et à côté de cela, des prix qui ne couvrent pas les coûts de production la plupart du temps, donc une dépendance très forte aux aides directes, ce qui rajoute au mal-être. Parce que les agriculteurs ont l'impression de ne pas vendre au vrai prix, quoi. Ils dépendent énormément des aides qui couvrent la quasi-totalité, voire plus que leurs revenus, parfois.
Ils aimeraient pouvoir vivre de leur propre métier sans dépendre de ces aides, finalement, idéalement.
Voilà. Et d'un autre côté, ils sont de plus en plus aussi la cible. Et à mon point de vue, on en reparlera. Je pense que, heureusement d'ailleurs, il y a des critiques sociétales aujourd'hui de certaines formes d'agriculture. Il y a un besoin de plus de préoccupations environnementales, de prise en compte de l'environnement et du travail décent par l'agriculture, qui viennent de la société. Mais les agriculteurs, un certain nombre, le vivent mal parce qu'ils n'ont pas des revenus décents et on leur demande un certain nombre d'efforts qui, je pense, sont absolument nécessaires, mais on n'en donne pas les moyens, si vous voulez.
Oui, de mon point de vue. Une agriculture qui dépend, on l'a compris, des aides de la PAC, hein, c'est désormais un système aussi, finalement, qui, au fil des décennies, depuis les années 60 à peu près, le début du système de la PAC, un système qui pousse à investir pour se diversifier, à acheter des bêtes, par exemple, à construire des nouveaux bâtiments, à devenir plus gros, mais d'où la dépendance, et puis ensuite à s'endetter concrètement. Hilaria Casillo, je me tourne vers vous parce que on a compris que cette année 2020 était cruciale. C'est celle de la renégociation de la PAC. Il faut quand même préciser que ces aides représentent 38% du budget de l'Europe quand même, hein, c'est énorme. Et donc vous avez été saisie à la CNDP par le ministre de l'Agriculture, c'est une première ?
Oui, tout à fait, c'est une première. Donc, comme effectivement, comme vous l'avez dit, la France, comme tous les États membres de l'Union européenne, c'est une nouveauté de cette année, doivent établir un plan stratégique national, qui est un document de planification dans lequel les États expliquent, voilà l'état des lieux de mon agriculture, voilà la vision, la stratégie que je vais adopter, et voilà, à la lumière des états des lieux et de la stratégie, comment je vais dispatcher les aides, d'accord ? Donc, ce plan, lui, doit faire l'objet d'une évaluation environnementale stratégique. Donc, c'est la loi française qui dit, comme il y a une évaluation environnementale stratégique, ce plan doit être débattu avec le grand public. Concrètement, c'est la première fois qu'en France, le grand public a le droit d'être informé et de s'exprimer sur qu'est-ce que c'est l'agriculture de mon pays, vers quoi elle devrait aller. Elle reçoit des aides de l'Union européenne, et bien comment ces aides, selon quels critères, elles devraient être distribuées ou pas. Donc, pour respecter cette obligation de loi, le ministre a saisi la Commission nationale de débat public et la Commission a décidé, pour la première fois, d'activer un débat public sur ce sujet. Donc, vous le connaissez peut-être à la Commission, on a réalisé pas mal de débats sur le nucléaire, sur des projets d'infrastructure, mais c'est la première fois que le sujet agricole arrive. Et cela est très important parce qu'il ne faut pas croire que l'agriculture est qu'une affaire d'agriculteurs. Bien évidemment, ce sont des parties prenantes en première ligne qui auront tout le rôle dans notre débat, mais ce débat public est tourné vers le grand public qui a beaucoup à dire. Il ne se reste que par le fait que tout le monde mange, tout le monde fait des courses. Et donc, l'agriculture est intimement liée à ça. Et comme ça a été très bien dit, il y a aussi des questions d'articulation d'effets sur l'environnement. Donc, pendant ce débat, nous aurons justement des thèmes qui couvrent tous ces aspects. Notamment,
quel modèle... Il y a cinq thèmes, choisis. Choisis par qui, alors, concrètement ?
Alors,
par le ministre lui-même ? Non,
alors, la Commission, comme étant une autorité indépendante, elle agit en toute indépendance du gouvernement. Le ministre nous a saisi et il a en cela respecté la loi. C'est nous qui avons réalisé plus de 169 entretiens dans 2 mois avec les principaux syndicats, la distribution, les transformateurs, les coopératives, les établissements de formation, vraiment tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, les think tanks, les établissements de formation, pour comprendre quel est l'enjeu de ce plan stratégique national, quel est l'enjeu lié à l'agriculture française et donc quels étaient les sujets. Et de ces énormes études de contexte, ces entretiens divers et variés que nous avons menés, nous avons dégager ces 5 thèmes qui
on
sont
peut les
vraiment
citer,
cruciales.
Peut-être.
Alors, le premier, c'est quel modèle agricole pour la société française ? C'est vraiment toucher à toutes les questions qui relèvent et dire surtout qu'il n'y a pas une seule agriculture. Justement, on est face à une diversité de faits agricoles en France. On a plusieurs types d'exploitations, des relations à la terre et au milieu rural. Et donc, ce thème-là vise un peu à creuser ces questions-là, mais aussi la question des agriculteurs. Il faut savoir quand même que d'ici 10 ans, il y aura la moitié des exploitants environ. Donc, il y a une vraie question de turnover des pyramides des âges.
Oui, on peut donner des chiffres d'ailleurs. Hein.
Exactement.
460 000 exploitants, je crois, en France.
À l'heure actuelle, oui. En 2016, 430 000. Et l'âge moyen d'un exploitant à l'heure actuelle est de 52 ans. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 départs sur 3 quand même qui sont remplacés. Donc, il y a un vrai enjeu de remplacement. Donc, toutes ces questions-là seront traitées. Et encore une fois, c'est des questions qui concernent tout le monde. Parce que la présence des agriculteurs dans les milieux ruraux, dans les campagnes, c'est aussi le lien qu'on a et la cohabitation entre une activité agricole et d'autres types d'activités qui, en plus, caractérisent les espaces ruraux.
En sachant, on peut le préciser, qu'on compte en moyenne, je crois, ces dernières années, 6000 nouveaux exploitants en bio par an, donc depuis 2018, et des néo-ruraux qui, eux, décident de devenir aussi ces exploitants de demain. On pourra en parler. Aurélie Touré, vous voulez ajouter quelque chose?
Tout à fait, il y a du bio, etc. Tant mieux, ça se développe, mais il faut quand même bien voir que toutes ces formes d'agriculture, je dirais, qui créent plus de valeur ajoutée, qui respectent mieux l'emploi et l'environnement, restent tout à fait minoritaires dans le monde agricole. Ce qu'on observe quand même, c'est aujourd'hui une augmentation de la taille des exploitations agricoles, un affaiblissement de l'agriculture familiale, un développement de l'emploi précaire, notamment salarié, des indicateurs environnementaux qui sont de plus en plus au rouge et une destruction massive de l'emploi agricole. C'est quand même ça, la réalité aujourd'hui du monde agricole, un endettement de plus en plus important. Donc il y a besoin d'un changement profond des modes de production agricole avec des politiques publiques qui l'accompagnent. Et tant mieux s'il y a ce débat qui se développe. Moi, j'ai juste un regret, je le mentionne, c'est que dans le même temps où s'ouvre, et c'est super, ce débat sur la PAC, dans le même temps, moi, j'apprends la création d'une cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole.
Ah, Déméter.
Déméter.
Qui a fait l'objet d'un article dans Le Monde la semaine dernière. On en a parlé dans l'émission
de la semaine dernière aussi. Qui, pour moi, est extrêmement préoccupante parce que, un, je pense que ça peut, au contraire, augmenter les tensions entre le monde agricole et la société, alors qu'on a besoin d'un nouveau contrat, au contraire, entre les agriculteurs et la société. Et deuxièmement, c'est une tentative de faire taire ces critiques sociétales. Il faut les avoir, ces critiques, parce qu'il faut pouvoir aussi faire évoluer la production agricole avec les agriculteurs et en leur donnant les moyens. Effectivement, voilà, il faut rétablir le dialogue. Et je ne crois pas que Déméter soit vraiment une bonne solution du tout.
Mais en tout cas, Hilaria Casillo, justement, dans les thèmes que vous proposez, il y a ces questions-là aussi. Ces questions-là, oui. Donc les thèmes, donc le deuxième, c'est quelle transition écologique
pour
l'agriculture.
Mais juste pour dire que le débat, c'est quand même une occasion, vous voyez, pour porter exactement ce que vous venez de dire. Le débat est un espace ouvert à tout le monde pour pouvoir aussi apporter les critiques ou les contributions que vous considérez. Pendant, je vous invite vraiment à vous saisir de cette occasion. Donc le deuxième thème, c'est la quelle transition agroécologique pour l'agriculture, parce que c'est quand même des questions désormais qui sont reconnues, l'effet des pratiques agricoles sur l'environnement, sur le climat, sur l'air, les sols, les ressources naturelles. Ensuite, on a un thème, qu'est-ce que je mange, ce qui est important. On ne peut pas dissocier la question de l'alimentation de celle de l'agriculture. 15% de la part du budget est destinée à l'alimentation, de la part du budget des ménages, donc c'est très important. Et puis il y a un thème, comment cohabiter dans les campagnes, qui est très important, parce que c'est la question, bien évidemment, de la forêt, de l'usage de la forêt, de la filière aussi, de la sylviculture, mais aussi de comment on interagit avec les agriculteurs aujourd'hui dans les campagnes, comment cette cohabitation se fait avec d'autres types d'usagers et d'habitants des campagnes. Et ensuite, on a aussi qui décide de la politique agricole, et là vraiment, on essaiera de parler du système des aides. Comment ça marche, ce système des aides? Qui, où se décide en fait? Selon quels critères? Comment marche la chaîne des valeurs, comme la création de la valeur dans la chaîne agroalimentaire? Tous ces sujets-là, encore une fois, peuvent apparaître techniques, mais ils ne sont pas techniques. Ils sont profondément, je dirais, sociétaux et politiques, parce qu'ils touchent vraiment à des choix stratégiques. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en fait, ce débat vise aussi à comprendre quel est le nouveau contrat social entre les agriculteurs et le reste de la société. Si, quand la PAC est née dans les années 60, l'enjeu, le contrat était nourrir l'Europe et moderniser l'agriculture, est-ce que celui-là est encore le bon contrat social à la base? Eh bien, ce débat public, en s'élargissant à toute la société française, vise justement à re-questionner ces choses-là pour éclairer les décideurs, pour que la France porte les propositions qui sont les siennes lorsqu'elle négociera la future PAC.
Rodolphe Marconi, est-ce que Cyril, justement, se confiait à vous par rapport à, ne serait-ce que la PAC, est-ce qu'il pouvait toucher, lui, des aides concrètement ou pas?
Oui, c'est pour ça que j'étais content d'en parler, parce que depuis longtemps, quand même, on entend un peu la même chose. Donc depuis 50 ans, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des lobbies, etc., etc. Il y a une chose, moi, dont j'aimerais parler par rapport au fait que, quand vous dites qu'on a besoin d'un grand changement, alors, ça fait tellement d'années qu'on entend cette histoire. On a besoin d'un changement profond, nanana. Bon, ok. Est-ce qu'on peut se dire aussi que, on voit à peu près ce que ça donne depuis 50-60 ans, le consommateur, vous, moi, tout le monde, partout, peut essayer de prendre, on le fait de
accepter
plus en plus.
Accepter le prix juste, c'est ça,
ouais,
ce que vous dire.
Enfin, avec le climat, j'ai l'impression que ça mord un peu plus, quoi. Il faudrait que sur la nourriture dont vous parliez tout à l'heure, ça suive aussi. C'est-à-dire que quand vous allez acheter votre lait, ça y est, maintenant, vous avez des laits différents. Il y a un lait où il y a marqué, alors, j'espère que c'est la vérité, en tout cas, c'est marqué dessus. Lait responsable. Bon, vous le paierez 10 centimes de plus. Sauf que vous savez que là, vous aidez un agriculteur laitier ou 20 centimes de plus. Moi, la seule chose que je me permets de dire par rapport à cette histoire, c'est le prix du lait. Pourquoi il paraît que sur les livres et sur les disques, le prix est encadré. Pourquoi c'est pas le cas sur le lait? Pourquoi on achète le lait 29-30 centimes pour le revendre 1 euro, 1,50 euro, 2 euros? Après, nous aussi, si on attend Jésus, je crois qu'on va pouvoir attendre longtemps, nous aussi, on peut faire quelque chose. Voilà.
Aurélie Trouvé.
Justement, si on attend que les pratiques des consommateurs évoluent, je vous assure qu'il se passera pas grand-chose. Ou alors le risque, je vais vous dire, et c'est ce qui est en train sans doute de se produire et qu'on observe, c'est une dualisation à la fois des systèmes de production, enfin en tout cas des agricultures, en gros, et des modes de consommation. C'est-à-dire que il y aurait 10-20% de l'agriculture, des produits qui seraient bio, de qualité, circuit court, etc., pour des consommateurs plutôt aisés ou en tout cas qui ont une certaine forme de accès à une certaine forme.
Non, je suis pas d'accord.
C'est aujourd'hui, d'ailleurs, vous regardez toutes les enquêtes, c'est très marqué. Hein. C'est-à-dire que le bio, etc., reste des marqueurs quasiment sociaux, même si, effectivement, il y a des enquêtes qui montrent que c'est pas forcément une question de ressources financières, mais au moins de capital social. Et je pense que, justement, ces formes d'agriculture alternative aujourd'hui, eh bien, il faut pouvoir avoir des politiques publiques qui les portent, qui en fassent, justement, qui les généralisent, ou en tout cas, qui fassent qu'elles soient beaucoup plus importantes. Et vous l'avez vous-même observé, aujourd'hui, on a des prix qui ne couvrent pas les coûts de production, on dérégule de plus en plus les marchés, on met en concurrence, y compris avec des accords de libre-échange, et aujourd'hui le monde agricole dans son ensemble, tous les syndicats agricoles par exemple sont contre l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Vous croyez quoi? Qu'ils ont mal compris le monde leur propre monde? Ils ont très bien vu que ces accords de libre-échange, eh bien justement, mettaient en concurrence avec des agricultures qui respectent moins des conditions environnementales, sociales, etc., que pourtant on exige d'eux, et donc ils demandent plus de protection. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui souhaitent changer leur mode de production, mais ils demandent des moyens qui soient protégés aussi vis-à-vis d'une concurrence déloyale, et qu'on puisse leur permettre des prix, comme on a fait dans toute l'histoire quasiment des grands pays agricoles, c'est-à-dire qu'on régule les marchés agricoles, parce qu'il y a plein de raisons économiques qui font que quand on ne régule pas ces marchés agricoles, les prix sont extrêmement volatiles et souvent ne couvrent pas ces coûts de production.
Rodolphe Marconi, vous vouliez réagir, et ensuite je me tournerai vers Hilary.
Non, c'est très court, c'était le moment où vous disiez que ça dépendait du budget, donc comme s'il y a, donc les riches pourraient le faire et pas. Alors je vous invite à venir avec moi dans un endroit que je connais bien, qui est la Charente-Maritime, et vous verrez que chez Leclerc, les carottes sont plus chères que chez les producteurs chez qui je vais. Voilà.
En circuit court, en tout cas.
Vous parlez de capital social, surtout.
Ah oui, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout un expert. Je parle juste...
Vous êtes le consommateur.
Le consommateur et celui qui a filmé voyez, Cyril. Mais je ne suis pas du tout un chercheur ou quoi que ce soit. Donc, je vous fais entièrement confiance. Mais il faut aussi dire aux gens, parce que ça, c'est important, que les gens se disent, en écoutant la radio, oui, si je vais chez Leclerc, je paierai moins cher. Ben non, vous savez que si vous allez chez un petit producteur, vous ne paierez pas forcément plus cher.
Et donc, Rodolphe Marconi, est-ce que Cyril pouvait prétendre à des aides, lui, concrètement, ou pas?
Oui, alors, pour répondre, parce que j'avais pas répondu votre question, du coup. Oui, moi, je tiens à chaque fois, dans chaque émission, à dire il est aidé. Qu'on ne dise pas qu'on n'aide pas les gens, puisque c'est pas vrai. Donc, il avait presque, je crois... En plus, il était jeune agriculteur, donc il avait une aide qui s'ajoutait à cela. Et je crois qu'on était à 36 000 euros par an.
Mais il a été victime de la mort de la quasi-totalité de ses vaches.
En gros,
il a dû réinvestir 200 000 euros pour être aux normes et il s'est endetté au-delà de ce que lui pouvait rembourser.
Alors, cette histoire d'emprunt, etc., les deux premières années, ça marchait très bien. Enfin, ça marchait, c'était pas Byzance, mais il s'en sortait, il payait les emprunts, etc. Ce qu'il a mis dedans, on va dire, c'est les deux étés de sécheresse, puisque les gens, par rapport au climat aussi, n'en parlent jamais. Mais quand vous avez deux étés de sécheresse d'affilée, ça veut dire que vous avez plus d'herbe, ça veut dire que les vaches, elles mangent moins, ça veut dire qu'elles font moins de lait, ça veut dire que vous n'aurez pas de foin pour l'hiver. Donc, mais si vous avez fait moins de lait, vous ne pouvez pas acheter des aliments. Bon, puis c'est l'engrenage, en fait.
Bien sûr. Alors justement, vous nous permettez, Rodolphe Marconi, d'écouter ce document sonore qui va nous permettre justement de poser ces questions-là de l'agriculture de demain, en tenant compte aussi, non seulement de ce que l'on mange, mais aussi des risques sanitaires, de l'environnement et du réchauffement climatique. Reportage diffusé sur France 3 le 23 août 2018.
En cette fin de mois d'août, les quelques orages de l'été n'ont pas suffi à reverdir les prairies. Cet agriculteur bio tape donc dans les stocks de l'hiver.
Elles sont en train de manger un silo de céréales immatures que j'avais fait dans l'optique de nourrir mes élèves cet hiver. J'avais pour nourrir un lot de 35 genisses pour tout l'hiver. Et là, encore 2 semaines, le stock est épuisé.
Devant la récurrence de ces épisodes de sécheresse, Nicolas cherche des solutions et peut-être l'a-t-il trouvé avec cette plante.
C'est du sorgho. C'est à la base une plante qui a été importée d'Afrique, qui ressemble a priori à du maïs, mais qui n'en est pas. Par rapport à du maïs, elle a une consommation d'eau qui est nettement inférieure, de l'ordre de 30% d'eau au moins, et qui ne produit pas de grains comme le maïs, quoi. La valeur de la plante se trouve dans la tige et dans ses feuilles.
À 550 mètres d'altitude sur les contreforts du massif des Vosges, l'idée peut paraître saugrenue. Pourtant, les premiers tests sont concluants. Nicolas espère nourrir ses vaches d'ici 3 semaines avec ses 15 hectares de sorgho. Et ses voisins agriculteurs qui regardaient l'expérimentation avec le sourire commencent à prendre au sérieux cette alternative.
Bah, ça fait un petit peu rêver, quoi. Le sorgho, ça fait quelques années qu'on en parle. Moi, j'étais pas pour parce que ça demande beaucoup de chaleur. On pensait ne pas avoir un climat adapté ici, à cette plante ici, quoi. Puis quand Nicolas a fait l'essai, ben, on se dit que finalement, pourquoi pas, quoi. C'est vrai que c'est tentant.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Hilaria Casillo, c'est vrai que cette PAC de demain, on sent dans ce que vous avez prévu pour le débat public qu'il y a ces questions environnementales aussi, les aléas, la sécheresse, enfin tout ce que l'on voit et ces agriculteurs victimes de catastrophes naturelles plus massivement, hein, donc les canicules, les orages, les inondations à répétition, quand c'est pas les pandémies, hein, vache folle ou grippe aviaire ou autre, est-ce que cela aussi va permettre de mieux orienter les aides, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut quand même le préciser, la PAC telle qu'elle est aujourd'hui est grandement aussi dénoncée, un système, dit-on, opaque, sur le plan de la distribution d'argent, ou parfois des grands groupes, des grandes marques pour des questions de marketing, l'accaparement de terres dans d'autres pays qui donnent droit à plus de subventions, etc., etc. Est-ce que le débat public, là, a aussi cette ambition-là, c'est de poser les questions environnementales, de recentrer et d'être de potentiel aussi aide pour une évolution vers cette agriculture autre, mais en tenant compte du réchauffement climatique.
Il faut quand même rappeler que la commission nationale et la commission qui organise ce débat et que je vais présider est une commission neutre. Bien évidemment, nous avons un thème qui est dédié aux questions de l'environnement. Si ce débat a lieu, c'est parce qu'on considère que la politique agricole française a un impact majeur sur l'environnement et sur le cadre de vie, ce qui a rendu obligatoire le fait de venir voir la commission. Donc, bien évidemment, les questions environnementales auront place comme toutes les questions dont on parlait tout à l'heure. Toute contribution qui sera faite dans le cadre du débat, elle se retrouvera dans le compte-rendu final que nous allons présenter 2 mois après la clôture du débat. Et il est important de dire à tout le monde qu'il y a quand même plusieurs manières de participer. On a bien évidemment une plateforme internet, où on peut laisser des avis, hiérarchiser et faire différentes choses. Nous avons un kit de débat téléchargeable pour que n'importe qui, partout en France, peut organiser en autonomie son débat. Nous donnons des fiches, des ressources pour le faire. Et puis, bien évidemment, la commission sera présente sur le terrain. Et ensuite, on aura aussi un moment très fort de démocratie délibérative. On réalisera une assemblée citoyenne sur l'agriculture en tirant au sort 140 citoyens avec qui on travaillera pour 3 jours de suite. Donc, on a plusieurs types de démarches, des démarches très portes ouvertes, des démarches un peu qu'on appelle money public, très délibératives.
Tout ça à disposition.
Voilà,
un
grand public pour
la population
mois.
Française. Exactement. Et qui d'ores et déjà, aujourd'hui dimanche 16h30, peut accéder au site et participer. Aurélie Trouvé, donc comment inciter concrètement peut-être les agriculteurs ou les aider à changer de pratique, à devenir des auxiliaires aussi de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des écosystèmes?
Je voudrais d'abord revenir sur le débat. Effectivement, il y a l'évolution de la consommation, mais qui pour moi ne se fera pas sans un incitatif fort et des politiques publiques aussi. Pour faire évoluer les consommations, moi je trouve que par exemple une très belle mesure, c'est celle de développer dans les cantines scolaires l'agriculture, l'approvisionnement local, bio. Et justement, ça permet à chaque enfant de France de pouvoir à la cantine bénéficier de produits bio, d'approvisionnement local, d'une formation aussi à la cuisine et aux produits de qualité. Et de ne pas justement rentrer dans la culpabilisation du consommateur. Et il y a aussi des belles choses aujourd'hui. Il y a ce développement effectivement des circuits courts, du bio, etc., mais qui malheureusement pour moi reste bien trop une niche. Hein. Et il faudrait que ce soit bien développé bien au-delà. Et comment faire ? Ben, vous l'avez dit, les aides de la PAC, c'est 12 milliards d'euros à peu près. Enfin, les aides agricoles, c'est 12 milliards d'euros par an. en France, qui est énorme. Hein. Et donc, c'est comment on relégitime ces aides, puisque ces aides, pour la plupart, elles sont versées par hectare, sans lien avec l'environnement, et même plus, on a produit des études avec des collègues qui montrent que, au contraire, les aides ont plutôt tendance à être plus faibles pour ceux qui respectent plus l'environnement et qui créent plus d'emplois par hectare. Donc il y a quand même un problème de légitimité de ces aides du point de vue social et environnemental. Comment on fait pour soutenir des agricultures alternatives qui créent plus de valeur ajoutée, qui préservent mieux l'emploi et l'environnement? Ça existe, hein, dans la production, qui développe la production herbagère, qui développe des rotations diversifiées des cultures, mais qui aujourd'hui restent quand même fortement minoritaires. Comment on fait pour faire évoluer ces modes de production agricole? Et je crois que il faut s'interroger sur ces 12 milliards d'euros, leur redonner de la légitimité avant qu'il n'y ait plus d'argent. Parce que dans la prochaine réforme de la PAC, vous savez qu'il vient d'y avoir des arbitrages, de nouveaux arbitrages, et on se dirige vers une forte baisse à nouveau du budget de la politique agricole commune. Et je crois qu'il faut absolument redonner de la légitimité pour maintenir ce budget de la PAC, mais en allant dans le sens de la préservation de l'emploi et de l'environnement. Et je crois que c'est assez urgent, et que là, il y a un fort besoin, et que l'État doit être garant, la puissance publique, de cette évolution dans ce sens de l'emploi et de l'environnement des agricultures.
Je me tourne juste un instant vers Rodolphe Marconi. Est-ce que Cyril, justement, avait le sentiment d'être aussi victime, peut-être, de ces relations entre citadins, ruraux, le fameux agri-bashing dont on parle? Est-ce qu'il s'en est ouvert auprès de vous?
Pas du tout. Non, il était vraiment... Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi comme ça qui, dans des campagnes un peu reculées, sont pas résignés. Mais un jour, je lui ai dit, mais t'es pas amer, t'as pas de colère. Il m'a dit, mais dans la vie, faut prendre les choses comme ça vient, quoi. Donc c'est pour ça que moi, ayant vécu ce que j'ai vécu pendant 5 mois, dormant sur un matelas derrière la ferme avec des bottes dans la bouse de vache du matin au soir, on est décalé forcément parce qu'on n'a pas la même...
Hilaria.
Oui, juste pour dire que c'est justement un peu ce qui distingue un peu les démarches, les débats publics de la Commission nationale, d'autres démarches qui prolifèrent un peu à l'heure actuelle, c'est justement que c'est déjà des démarches très encadrées par la loi. Nous avons l'obligation de produire un compte-rendu très détaillé, sans filtre, et surtout, il y a l'obligation de réponse de la part du gouvernement, en l'occurrence, dans le cas spécifique, notamment du ministère de l'Agriculture, qui doit répondre 3 mois après la publication de notre compte-rendu à notre compte-rendu. Donc voilà, en détaillant les enseignements qu'il tire, ce qu'il retient, pas et pourquoi. Donc c'est un principe de reddition des comptes quand même qui est très important et qui n'existe pas forcément dans les démarches d'autres de participation à l'heure actuelle.
On a très peu de temps, Aurélie.
Non, juste pour réagir sur la détresse des agriculteurs par ailleurs que vous avez vécu du coup pendant de nombreux mois. Nous, évidemment, les chercheurs de terrain, on en rencontre plein tout le temps des agriculteurs en grande détresse. Et je crois que vous le pointez justement, c'est-à-dire c'est comment on fait en sorte aujourd'hui de répondre à la fois à cette détresse. Quand on entend le slogan fin du monde, fin du mois, même combat. Bon, c'est comment on fait aujourd'hui en sorte de rétablir. Vous l'avez dit, de rétablir un contrat social entre les agriculteurs et la société. Ça nécessite effectivement aussi de se préoccuper de cette détresse, de faire en sorte que ces agriculteurs puissent vivre décemment et en même temps qu'on les amène, ou qu'ils s'amènent eux-mêmes, mais qu'on les amène aussi par la politique publique à répondre à ces enjeux sociaux et environnementaux dont la société se préoccupe de plus en plus. Et je crois que c'est une bonne nouvelle et j'espère que le débat qui va être lancé sur la PAC va aller dans ce sens-là.
Voilà. Alors, puisque vous avez la parole, Aurélie Trouvé, je vous propose d'écouter votre choix musical, hein, Bernard Lavillier, Les Idées Noires, un choix en particulier. On imagine un peu le lien quand même par rapport à ce que vous voulez de nous dire.
C'est pas très réjouissant sans doute, mais peut-être qu'effectivement ça... Alors, je sais pas si c'est en lien, c'est par ailleurs une chanson que j'aime beaucoup. Voilà.
Il se lève, c'est l'heure, écrase son ego. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Dans la cuisine, mais la sécurité.
Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Mais où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu?
de Cause à Effet. C'est la suite de notre magazine de l'environnement sur France Culture qui s'intéresse aujourd'hui au monde agricole et aux renégociations de la politique agricole commune. Des négociations qui auront lieu cette année en vue d'une nouvelle PAC et qui sera appliquée de 2021 à 2027. La PAC, l'Europe et les agriculteurs, quel équilibre pour un avenir meilleur? Nous en discutons avec Ilaria Casillo, vice-présidente de la CNDP et présidente du débat public sur l'agriculture intitulé Impactons. Aurélie Trouvé, maître de conférence en économie à l'AgroParisTech, et Rodolphe Marconi, réalisateur du documentaire Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Un film sur les écrans, dans toutes les salles de cinéma, mercredi prochain.
J'étais jeune et ben, je disais, ben, je vais m'installer, je serai avec ma maman et tout. Bon, ben, on pourra faire quelque chose, quoi. Oui, bon, je pourrais rencontrer quelqu'un qui s'installe avec moi et tout ça. Bon, après, je pensais pas que ma maman allait partir aussi vite. C'est ça aussi. Mais là, finalement, maintenant, ben, en fait, j'ai été dégoûté du métier, quoi. Puis voir comment ça se dégrade, ça me rend malade, quoi, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh bah, c'est que des agriculteurs, bon, c'est, ils nous prennent pour des moins que rien. Mais en fait, c'est la base du monde, en fait, être agriculteur. On nourrit les autres. C'est ça.
Si je vois arriver les huissiers tous les jours, c'est pas la peine.
C'est ça qui te tracasse aujourd'hui?
Oui, il y a ça aussi.
Faut tenir bon.
Oui. Au bout d'un moment, on éclate, c'est tout. On éclate et puis voilà. Quand on est seul, on éclate et puis c'est tout. Allez, go. Ça va aller.
Rodolphe Marconi, finalement... Cyril va affronter le plus dur, on ne dévoile pas tout, mais ce monde en souffrance, vous l'avez vécu à ses côtés. Je crois qu'il vous a confié le fait que si vous n'aviez pas été là, il en aurait fini définitivement peut-être.
Oui, il ne me l'a pas dit à moi, il l'a dit à son meilleur ami qui me l'a répété. Apparemment, il a dit que si j'avais pas été là les 4 mois où j'étais là, il n'aurait pas pu faire face. Enfin, il serait mis la corde au cou en fait.
Donc vous avez joué ce rôle-là aussi, c'est-à-dire qu'à travers votre caméra, finalement, il a senti peut-être que vous aviez aussi la capacité de sensibiliser, ou pas forcément, non, il vous a laissé faire.
Ah non, mais je crois que c'était surtout instinctif en fait, c'est qu'il était noyé dans tout ce qui était en train de se passer, et je mettrais même pas ma personne en avant, je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être été la même chose, mais c'était le fait que ces 4 mois-là, il les a traversés pas tout seul, quoi. On était deux à prendre les choses qui arrivaient, et il a dit que sinon il serait passé la corde au cou, ouais. C'est sûr.
Aujourd'hui, il cherche du travail?
Ouais, alors il a des rendez-vous, il y a encore des papiers à faire. Les vaches sont parties en décembre. Et là, il fait des formations avec Pôle emploi. Enfin, il rentre dans la reconversion. C'est pas encore le moment de se demander pourquoi il y a eu l'échec. D'abord, c'est comme un avion qui se crache, vous savez. On fait d'abord le deuil et puis après, on cherchera les raisons du crash.
Oh là là! Oh là là, les fifis!
Au début, quand j'ai repris la ferme, les vaches, elles m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Et puis au fil du temps, elles se sont calmées, elles se sont habituées à moi, tout ça. Maintenant, elles sont calmes, quoi. Parce que moi, ben, je crie pas, je tape pas, ni rien, quoi. Et en fait, les bêtes, ben, elles sont comme l'éleveur, tout simplement.
Allez.
Ben, Hirondelle, c'est la première que j'ai eue, que j'ai élevée au biberon. Les gens à qui je parle le plus, c'est à Sam et Vache et mon chien.
Et là, gros.
Parce que dans la journée, je vois personne d'autre. Mais bon, mes vaches, elles comprennent, quoi. Quand ça va pas, elles le comprennent. Mon chien, c'est pareil. Hein.
Oh là là.
Rodolphe Marconi, est-ce que vous avez envie de continuer à informer le public par le biais de votre caméra sur ce monde en transition, notamment?
Oui, ça donne envie. Ça donne envie. Et de faire tout seul, comme ça. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on rentre dans l'intime, en fait.
Merci.
C'est moi qui vous remercie, j'étais ravi.
Et bien sûr, on renvoie nos auditeurs à votre film Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes, en salle, au cinéma, à partir de mercredi prochain.
Merci beaucoup.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
En tout cas, la saisine de la CNDP pose aussi une autre question. Quel nouveau contrat social et sanitaire doit régir la PAC? Comment allier ruraux et rurbains ou urbains, tout simplement? Je vous propose d'écouter ce document sonore, extrait du reportage diffusé le 23 septembre 2019 sur France 2.
Plus de 700 kilomètres et une génération séparent ces deux éleveurs, mais un même sentiment les réunit aujourd'hui. Celui d'une profonde déconsidération de leur métier.
Au niveau des politiques, tout ça, on n'est pas soutenu. Quand on voit ce qu'ils font de leur côté, on n'est pas soutenu du tout. Du tout. Ils veulent plus d'agriculteurs, de toute façon, ça. Faut pas qu'ils nous mentent, quoi, voilà.
Je suis pas persuadé que la population prenne bien soin de ses agriculteurs. Je pense que les animaux sont quelque part un peu plus respectés que les personnes qui s'en occupent.
Il y a quelques jours, dans sa ferme bretonne, Dominique Hamon a reçu cette convocation de la gendarmerie. Quelqu'un a photographié son salarié sur son tracteur lors d'un traitement aux pesticides. L'auteur de la photo a porté plainte, jugeant cet épandage contraire à la réglementation. L'éleveur est encore sous le choc.
Moi, personnellement, à un moment, je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je quitte. Il faut que je quitte ce monde, parce que je ne sais pas l'entretenir, je ne sais plus faire mon métier.
Vous vous êtes dit ça ?
Ça m'a blessé, oui. Je me suis dit, c'est fini. Ma vie n'a plus lieu d'être là. Je ne sais plus faire ce que j'ai à faire. On m'a jugé sans avoir les preuves que je fasse des bêtises. Ça, c'est atroce.
Le maire de sa commune, Langouette, a décidé d'interdire l'épandage à moins de 150 mètres des habitations. Un arrêté suspendu par la justice, mais depuis, une quarantaine de maires ont décidé de suivre l'exemple. Si une telle décision s'appliquait sur l'exploitation de Florian Belot, cet éleveur du Tarn ne pourrait plus cultiver 30% de ses terres. Pourtant, il estime respecter l'environnement.
Il ne faut pas faire une fixette parce qu'on voit passer un agriculteur avec un pulvé. Il faut savoir déjà qu'est-ce qui passe, déjà, à quelle dose il le passe. Souvent, on passe de nuit. Ce n'est pas pour se cacher si on passe de nuit. C'est pour baisser les doses. Ça fait déjà 15 ans qu'on y travaille là-dessus.
Alors, dans ce débat, il y a des questions environnementales, on l'aura compris. Il y a des questions sanitaires aussi, de santé publique. Et puis, il y a des questions d'exploitation agricole aussi. Comment est-ce qu'on peut allier tout ça, finalement ? Ilaria Casillo.
Alors, je ne sais pas comment on peut allier tout ça. En revanche, je sais que ce débat est une opportunité majeure pour débattre de cela. Et ça, c'est important parce que c'est une opportunité qui arrive pour la première fois en France, dans ce pays, et parce que c'est le bon moment. C'est-à-dire que c'est là qu'il se renégocie, justement, la PAC. Et parce qu'il y a aussi une conjoncture liée à la transition agroécologique, au dérèglement climatique, qui fait que ces questions-là ont vraiment un intérêt majeur à être portées devant le grand public. Et donc, c'est au grand public d'apporter les réponses avec tout le monde, avec les agriculteurs, les syndicats, les associations. Ce débat est ouvert à tout le monde, mais il est primordial que tout le monde se parle et que tout le monde participe.
Aurélie Trouvé, justement, on peut se dire, est-ce que les chercheurs, les spécialistes AgroParisTech, INRA ou autres envisagent de jouer un rôle spécifique auprès des agriculteurs, peut-être pour les aider aussi dans cette transition qu'on leur demande?
J'espère que c'est ce qu'on fait depuis un certain moment.
Mais encore plus, peut-être en étant carrément directement sollicité potentiellement.
Voilà, mais de toute façon, après, je considère par ailleurs que les chercheurs, les enseignants-chercheurs aussi, ont un rôle non seulement de recherche pure, mais aussi une utilité sociale et un rôle de développement, de vulgarisation, etc. Voilà, et y compris auprès de la puissance publique. Je voudrais juste dire une chose, attention aussi à ce que ce débat ne crée pas trop de frustration, j'ai envie de dire. Il y a eu un débat public qui a été lancé, une consultation publique par la Commission européenne et le commissaire européen Dacian Ciolos pour la dernière réforme, celle de 2013, qui finalement s'est pas traduit par un changement profond de politique agricole commune. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ce débat, qui est une très bonne nouvelle au niveau national, doit aussi justement permettre des résultats. Alors non seulement ça doit permettre de progresser dans ce contrat social, mais aussi des résultats dans les changements de politique publique. Parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui. Enfin, on parle d'agribashing, mais il faut bien voir quand même qu'aujourd'hui, vous avez une utilisation accrue, toujours plus accrue, des produits phytosanitaires, qu'il y a de moins en moins d'éléments du paysage liés aux pratiques agricoles, parce qu'il y a de moins en moins de surfaces de prairies, par exemple. Et donc, il y a besoin quand même d'un changement profond. Et je le redis, surtout en ne culpabilisant pas les agriculteurs, mais en leur donnant les moyens. Et ces moyens-là, c'est la politique publique qui doit les fournir. Et là, il y a un vrai enjeu, je pense, à travers ce débat, d'en créer les conditions.
Merci à vous, merci Ilaria Casillo, Aurélie Trouvé, merci. Rodolphe Marconi, les liens, livres, conseillers sont à retrouver sur notre site, bien sûr. Je pense par exemple au livre « Il était une bergère » de Stéphanie Maubé et Yves Deloison, édité au Rouergue. Et à découvrir aussi sur le site l'actualité de l'artiste Joël aux enfants, qui continue par ses œuvres à encourager la plantation des haies.
France Culture. de Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et tout de suite, direction la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média dans l'actualité qui touche à l'environnement. Coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Et aujourd'hui, l'œil du monde Planète n'est autre que Martine Vallaud. Bonjour Martine.
Bonjour.
Alors vous êtes allée dans les Côtes d'Armor, où vous avez visité le site industriel d'un énorme méthaniseur, inauguré à Lamballe en 2019, le plus grand d'Europe. Comment fonctionne-t-il concrètement ?
C'est un méthaniseur qui a été inauguré là en 2019. Ce sont deux grosses cuves qui fonctionnent avec du lisier de porc qui, donc en se dégradant, produit du gaz dont on récupère le digestat pour faire des engrais, mais qui n'est pas épandu directement sur les terres. Ce sont des engrais transformés qui peuvent donc être transportés pour des arboriculteurs ou des légumes sous serre, voilà.
Et donc concrètement, ce méthaniseur aussi est source de production électrique.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est le méthaniseur, c'est quelque chose de nouveau, mais qui vient encore encourager une production alentour de porc supplémentaire, puisque donc ce méthaniseur est installé sur le site industriel de la Coperle, qui travaille avec des éleveurs bretons essentiellement, et dont ils transforment la viande en plein de choses, pas seulement en viande, mais qui aujourd'hui va aussi transformer le lisier en gaz. Et d'une certaine façon, pour les éleveurs, ça signifie de devoir investir dans des nouveaux équipements pour pouvoir fournir en lisier une qualité stable. Et pour cela, pour avoir les moyens d'investir, il faut qu'ils produisent toujours plus de porc. Et voilà comment cette spirale, on parle d'économie circulaire, mais là on pourrait peut-être plus parler de spirale, conduit à avoir toujours plus de porc. Et le problème, c'est qu'une partie, la partie solide va partir dans les cuves, mais la partie liquide continue à être épandue sur des terres qui ne sont pas immenses, de tout ce bassin de la baie de Saint-Brieuc qui est extrêmement impacté par les algues vertes à la belle saison.
Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, alors qu'à la base, on a une démarche d'économie circulaire qui pourrait être tout à fait positive, ça devient négatif dans le sens où pour donner suffisamment à ce méthaniseur, on pousse les porcheries locales à devenir plus importantes, et donc ça crée potentiellement un foyer de pollution sur le secteur, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je voulais juste préciser que, même cette idée d'économie circulaire, il y a un petit biais, c'est-à-dire que avec un méthaniseur, on a à la sortie autant de nitrate qu'on en avait, ou de phosphate qu'on en avait à l'entrée. Simplement, là, c'est transformé autrement et ça n'est pas directement épandu sur les terres alentours, mais ça peut être un peu transporté un peu plus loin. Mais ça permet de créer un gaz. Voilà, c'est une forme d'énergie renouvelable. Ça ne permet pas de régler le problème des nitrates, ni de l'azote, ni des phosphates.
Alors, qu'est-ce que les éleveurs ont à en retirer concrètement ? Parce que eux s'endettent finalement.
Ça, je crois que c'est l'éternelle question de l'organisation agricole. En Bretagne, c'est très évident avec l'élevage, c'est que les éleveurs se retrouvent de plus en plus endettés et de plus en plus dépendants de ce que leur demande leur coopérative. Les coopératives, celle-ci par exemple, c'est quelque chose d'énorme. Elle a des bureaux en Chine, en Russie, c'est plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Les petites coopératives d'éleveurs, c'est fini ça.
Alors, quelle est la position des habitants sur place et celle des élus ?
Les habitants sont très partagés. Beaucoup de gens ont de la famille qui travaille, dans le secteur agroalimentaire d'une façon générale, parce que c'est quand même une activité essentielle pour la Bretagne. Donc, on s'exprime peu et les élus s'expriment encore moins, je dirais. Voilà.
Donc, je vous propose, Martine Vallaud, de renvoyer nos auditeurs sur votre article. À Lamballe, un méthaniseur encourage l'élevage de cochons en dépit des algues vertes. C'est le titre de votre article à découvrir sur notre site et sur le site du monde.fr, c'est ça ?
C'est tout à fait ça.
Merci Martine Vallaud, merci à vous, bonne journée.
Au revoir.
Aujourd'hui, c'est la découverte de la troisième ruche parrainée en 3 ans.
Je suis en train de compter combien il y en a qui bossent et combien il y en a qui se reposent.
à partir de 900 euros par an pour les entreprises et de 8 euros par mois pour les particuliers, ce partenariat permet aux apiculteurs de se développer. Anne a aujourd'hui 116 ruches parrainées.
C'est une affaire qui est suivie par beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, la sauvegarde de l'abeille, c'est un sujet qui est très important. Et puis pour moi, c'est un donnant-donnant puisque je m'occupe de leurs abeilles. Et en contrepartie de ça, je leur livre leur miel. Et c'est, en fait, on fait une équipe.
Le parrainage « Un toit pour les abeilles » permet de financer jusqu'à 50% de l'outil de travail de l'apiculteur. 20 000 particuliers et un millier d'entreprises sont engagés aujourd'hui dans cette démarche.
Une belle relation amicale et en plus j'ai voulu faire partager ça avec mes équipes. Donc une fois par an, on vient avec des collaborateurs, ils viennent voir un petit peu comment ça se passe, comment on récolte le miel. Et en plus, on a du miel que nous, on fait profiter sur nos buffets, à nos clients. Et voilà, le miel de Sarah.
L'Escale Verte, chaque semaine, nous partons sur le terrain en France, en Europe ou ailleurs dans le monde pour y découvrir des territoires, des coins de paradis ou des secteurs en danger, des actions positives ou négatives. Aujourd'hui, on part sur du positif, direction les ruchers de l'association Un Toit pour les Abeilles. Bonjour Zakia Abarou.
Bonjour Aurélie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le précise, en duplex de nos studios de France Bleu La Rochelle. Et donc, vous êtes porte-parole du réseau d'apiculteurs de cette association, Un Toit pour les Abeilles, qui fête ses 10 ans. Racontez-nous peut-être l'origine, l'histoire.
Eh bien, à l'origine d'Un Toit pour les Abeilles, il y a un homme, donc Régis, fondateur d'Un Toit pour les Abeilles, lui-même apiculteur passionné et qui était donc du coup enclin avec ses problèmes associés à l'effondrement des colonies d'abeilles. On connaît les problématiques autour de la disparition des abeilles, les pesticides notamment, mais pas que, la monoculture, le dérèglement climatique, les infections parasitaires, le frelon asiatique est arrivé depuis peu. Et en fait, face à cette problématique de plus en plus importante, on s'est posé la question de savoir comment il pouvait faire en sorte de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et on s'est dit qu'effectivement, peut-être solliciter des parrains, particuliers ou entreprises, pour pouvoir soutenir une filière apicole en souffrance serait la solution, en tout cas l'une des solutions à apporter.
Et oui, parce qu'en 10 ans, ce sont 15 000 apiculteurs qui ont dû cesser leur activité. Et on rappelle aussi les chiffres, suite aux dernières études, 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Et puis, c'est aussi effectivement ce syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, que certains ne mesurent pas forcément d'ailleurs. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on en sait de cet effondrement ?
Eh bien en fait, depuis quelques années en France, ce sont 300 000 colonies d'abeilles qui disparaissent chaque année, selon les chiffres de l'UNAF, l'Union Nationale des Apiculteurs de France, du fait effectivement de cette addition de plusieurs facteurs d'appauvrissement. Ce sont l'introduction des pesticides dans les années 90, on a également les infections parasitaires avec le varroasse que je vous expliquais, le frelon asiatique, la monoculture qui appauvrit, si vous voulez, les ressources naturelles que les abeilles peuvent chercher dans la nature, et puis le dérèglement climatique, les saisons qui n'en sont plus, quand les abeilles devraient hiverner, elles se retrouvent à sortir parce que globalement la météo est trop clémente et elles se retrouvent à puiser des ressources de la ruche et à mourir de famine, etc. Donc c'est tous ces petits facteurs, c'est beaucoup trop pour un insecte aussi fragile que l'abeille et pourtant essentiel. On sait que 80% des plantes à fleurs sont pollinisées, entre autres, par les abeilles et les autres insectes pollinisateurs.
Et on peut donner d'autres chiffres, peut-être sur le rôle important des abeilles qu'on ne mesure pas forcément non plus. La production de plus de 3/4 des cultures donc dans le monde dépend des abeilles. 35% de la production alimentaire mondiale en tonnage, 10% du chiffre d'affaires de l'agriculture mondiale, et puis il y a autant de personnes aussi qui en vivent dans la filière apicole. Combien d'apiculteurs en France ? Et il faut aussi parler des éleveurs amateurs.
C'est ça. Aujourd'hui, on compte, nous, Un Toit pour les Abeilles, plus d'une centaine d'apiculteurs qui ont rejoint l'initiative et qui sont soutenus à travers le parrainage de ruches. On a, alors vous évoquiez en préambule quelques chiffres qui ont été revus à la hausse entre-temps. On a aujourd'hui plus de 60 000 parrains particuliers qui soutiennent l'initiative et plus de 2 000 entreprises qui sont engagées et qui financent ces installations de ruches partout en France.
Et concrètement, en France, la consommation de miel, est-ce que la production nationale suffit à répondre à la demande ?
Alors aujourd'hui, en France, on produit en moyenne 10 000 tonnes de miel par an, contre 35 000, 45 000 dans les années 90. Donc on a bien réduit la production de miel. Par contre, on sait que là, en France, en moyenne, on consomme 40 000 tonnes de miel par an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus de 30 000 tonnes de miel consommées en France provient de l'étranger, de l'Union européenne ou hors Union européenne, dont il est difficile, si vous voulez, de retracer l'origine.
Et d'ailleurs, ces miels importés ont fait l'objet de reportages hein, ces derniers temps et qui montraient que régulièrement, il y avait des miels, comment peut-on dire, frelatés, c'est ça ?
C'est ça, exactement, des miels qui n'en sont plus finalement, qui sont mélangés avec du sirop de glucose ou d'autres mélanges. Ça a le goût du miel, ça a l'aspect du miel, mais ce n'est plus du miel.
Alors dites-nous, de quelle façon est-ce que l'association Un Toit pour les Abeilles peut aider les apiculteurs ? Donc vous disiez plus de 60 000 parrains particuliers, 10 000 ruches donc parrainées en campagne, 70 apiculteurs aidés. Comment ça se passe, le concept ?
Alors, globalement, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, un cercle vertueux où des parrains, qu'ils soient particuliers ou entreprises, vont verser hein, un montant chaque mois, mensuel. Ça commence à 4,50 euros par mois pour un particulier, 90 euros pour une entreprise. Et à partir de là, on va financer concrètement hein, l'installation de nouvelles colonies d'abeilles chez les apiculteurs. Et en contrepartie de quoi, on va tisser un lien entre l'apiculteur, ses abeilles et le parrain. Donc, le parrain va recevoir des nouvelles régulières, des ruches de son apiculteur, des photos de sa ruche. Il va être invité lors de journées, ce qu'on appelle nous des immersions ruchées, où il va rencontrer son apiculteur, titiller ses abeilles, échanger également autour du métier, autour de cet insecte fragile mais tellement essentiel. Il va recevoir des petits pots de miel qui sont personnalisés avec son nom ou avec le logo de l'entreprise. Bref, on va sensibiliser à grande échelle, changer également chaque mois notamment, on a une petite note d'information qu'on fait circuler à nos parrains où on explique que chacun peut faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est parrainer des ruches, c'est consommer local, c'est bien entendu changer des petits gestes du quotidien, éviter les tontes trop fréquentes du jardin ou de la jardinière, c'est essayer voilà, de suivre la traçabilité des produits qu'ils achètent.
De cultiver des plantes mellifères.
Voilà, des plantes mellifères, et également planter ou semer des plantes mellifères. Il y a plein de petits gestes du quotidien qui peuvent réellement faire évoluer les choses dans le bon sens et surtout sensibiliser les générations à venir sur le fait que si nous ne faisons rien aujourd'hui, on risque de voir s'étioler, si vous voulez, le nombre d'abeilles au fur et à mesure des années.
Alors, on peut préciser que pour tous ceux qui seraient intéressés, donc sur votre site très très complet et fourni, il y a une carte où il y a des petits logos matérialisant les endroits où se trouvent justement des ruchers, donc des apiculteurs qui ont besoin d'être aidés. Et selon les régions de cœur, peut-être, ou celles qui vers lesquelles on est plus porté, on peut cliquer, découvrir hein, très concrètement comment l'apiculteur, voilà. C'est ça, travaille, et puis quel type de miel il produit, et on peut faire son choix, c'est ça ?
C'est ça, et l'objectif c'est bien entendu d'aller choisir l'apiculteur le plus local possible, de manière à aller le rencontrer, d'aller voir sa ruche en direct, finalement concrétiser le soutien financier qu'on a apporté en allant, si vous voulez, passer un moment avec ses abeilles, son apiculteur, et voir un petit peu son métier au quotidien.
Merci à vous, Zakia Barou.
Je vous en prie, avec plaisir, merci.
Et puis bien sûr, on renvoie sur le site de votre association Un Toit pour les Abeilles qui fête ses 10 ans. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les informations, bibliographies, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet. Il y a également la page Facebook. La semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver jeudi à 12h30 en public au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, pour l'enregistrement de notre émission sur le thème « La grande distribution et l'agriculture française ont-elles un avenir commun, écologique ?» et durable. Rejoignez-nous nombreux dans le pavillon 1 sur le stand B006 de Radio France et notre invité sera Serge Papin, ex-PDG de Système U. Il répondra à nos questions et à celles de nos partenaires de la coalition hashtag Sauver le Présent avec donc Émilie Torjmen du Parisien et Blaise Mao de la revue Ouzbek Erika. Et dans un instant, vous restez bien sur France Culture. C'est la suite de vos programmes avec Être et Savoir et Louise Touret.